Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International sur RFI, bien sûr. Et pour évoquer toute cette actualité sportive dans le monde du football, bien sûr, Adrien Rabiot contre-attaque et se révolte contre son renvoi dans l'équipe réserve du PSG depuis son refus de prolonger son contrat. Le club parisien doit-il revenir sur sa mise à l'écart et réintégrer ce joueur formé au club à un moment crucial de la saison où son milieu de terrain est dépeuplé ? Leonardo Jardim dans la lumière de l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur portugais qui avait fait merveille sur le club du Rocher, s'est dit malicieusement prêt à rester en Ligue 1 et les esprits s'enflamment. Est-il Olas compatible, ce génie de la formation? Serait-ce trahir Bruno Genesio pour le propriétaire des Gones? Nous essaierons de répondre à ces suppositions. Ousmane Dembélé aligne les buts au Barça. Le jeune et fougueux champion du monde semble peu à peu s'assagir dans l'effectif des stars Blaugrana. Peut-il lui aussi briller dans cette équipe? En tout cas, le Barça a surpris hier en recrutant le Ghanéen Kevin Prince Boateng. Et puis toujours en Liga, pendant ce temps, pendant qu'on parle du Barça, d'Ousmane Dembélé ou aussi de Luis Suarez, le Real Madrid est remonté sur le podium du championnat d'Espagne. Et pour évoquer ces sujets, Dominique Sévrac, notre ami du Parisien. Bonjour Dominique.
Bonjour à tous.
Philippe Doucet de Canal+, notre star ici dans ce studio.
Bonjour. Bonjour Madame Annie, c'est vous la star.
Et puis Gilles Verdez, autre star à ses côtés. Bonjour.
Oh, pas tant que Doucet, vous savez. Côté de lui, on est modeste.
Vous bonjour, passez à Annie. La télé, vous aussi. Vous passez tous à la télé, d'ailleurs. Et puis Hugo Moissonnier. Bonjour Hugo.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous passez pas à la télé, hein. Nous on fait de la radio,
non,
c'est ça.
Je suis pas vraiment une star non plus. Donc, c'est
raccord. Une star de la radio. Radio Foot, c'est parti.
Avec Emiliano Sala, l'action parfaite pour Monsieur 50% et désormais un peu plus. Il avait inscrit avant ce match la moitié des buts de Nantes. Il y a peut-être un coup à jouer avec Bossiglia à l'extérieur du pied vers Limbombé, le contrôle de Limbombé derrière la frappe croisée, c'est pas terminé. Avec Emiliano Sala, l'inévitable. 55% désormais pour Emiliano Sala. Au centre, Emiliano Sala qui est seul. Il ne faut pas lui laisser d'espace à Emiliano Sala, sinon ça se transforme en but.
Le stade de la Beaujoire à Nantes scandait son nom à Emiliano Sala, le buteur vedette, celui qui avait aussi marqué ce triplé à Toulouse le 20 octobre dernier. Depuis, son ancien coéquipier Lucas Deo, ancien joueur de Nantes, écrit aujourd'hui sur Twitter « J'espère du fond du cœur que ce n'est pas vrai ». Ce qui n'est pas vrai, c'est que pour l'instant, Emiliano Sala est porté disparu depuis hier soir, 20h20. Le petit avion à bord duquel il voyageait a disparu au nord des îles anglo-normandes. Le buteur argentin de Nantes avait pris place dans cet avion, ce Piper appartenant au riche propriétaire malaisien du club de Cardiff, pour rejoindre le Pays de Galles et le club où il venait d'être transféré. Le Canari Emiliano Sala quittait ce club au bout de 3 saisons et demie, après avoir pris la tête cette année du classement des buteurs. Il avait même été devant Neymar, devant Mbappé, et il aura porté le maillot des jaunes et verts pour la dernière fois à Nîmes le 16 janvier, il y a tout juste une semaine. Hugo Moissonnier, cet Argentin était formé en France.
Oui, formé à Bordeaux, c'est en tout cas là qu'il est passé professionnel. C'était au début des années 2010. Ce n'est pas, on va encore parler un peu de lui au présent, le joueur le plus fin, le plus racé, le plus technique. Mais il était loué pour son abnégation, son activité sur le terrain, son sens du but, son mental également. Il a mis du temps à éclore véritablement au sein de l'élite du football français. Emiliano Sala, il s'est accroché, alors on l'a dit, des débuts professionnels à Bordeaux. Premier match chez les pros en 2012, c'était en Coupe de France. Mais ensuite, il a reculé pour mieux sauter. Il a eu une ascension, voilà, assez lente. Emiliano Sala, il a d'abord brillé en national, donc l'équivalent de la troisième division, à Orléans, 19 buts en 2012-2013. Et puis, il a grimpé à un échelon supérieur, Niort, une saison à 18 buts en Ligue 2. Et il est revenu à Bordeaux. Il a inscrit son premier but en Ligue 1 en 2014. Puis, il est allé à Caen, un club qui joue un peu plus bas au classement. Et puis, il a rejoint Nantes à l'été 2015. C'est vraiment là qu'il s'est épanoui, qu'il s'est révélé l'Argentin qui est né, petite parenthèse, à Cululu Las Colonias, donc c'est dans la province de Santa Fe au nord de Buenos Aires et de Rosario. Je parle sous votre contrôle, Annie. Nantes, donc à partir de 2015, une première saison compliquée, 6 buts seulement, et puis derrière, il a commencé à devenir très régulier, une saison à 15 buts, une autre à 14. Il en était déjà à 13 réalisations, toutes compétitions confondues depuis le mois d'août dernier. Emiliano Sala, l'arrivée de Coach Vade Alidzic l'avait quelque peu transfiguré, avait transfiguré le club dans son ensemble, et notamment le buteur vedette Emiliano Sala, 7 buts en 4 matchs fin octobre, début novembre. C'est là qu'il a commencé à regarder dans les yeux, si je puis dire, Neymar, Mbappé au classement des buteurs, avant ce départ polémique pour le Royaume-Uni, pour le Pays de Galles, pour Cardiff,
surtout.
Pour la Première Ligue, qui avait notamment fâché son entraîneur Vade, mais ça forcément c'est un peu relégué au second plan depuis hier.
Et oui, alors cet avion a disparu et actuellement, eh bien, les recherches se poursuivent. Malheureusement, quand un avion disparaît, on a rarement des bonnes nouvelles, même si beaucoup de gens, il y a un de ses camarades argentins de Bordeaux, puisqu'il y a ce centre de formation à Bordeaux qui s'appelle Projeto Crecer, l'argentin Valentin Vada, qui a suivi un peu la même voie que lui, qui dit « Vamos hermano, aparece por favor ». Allez mon frère, apparaît s'il te plaît. Gilles, c'était un joueur dont on parlait justement ces derniers temps à cause de ce transfert, ou grâce à ce transfert, parce que sans doute que pour lui, à 28 ans, c'était une des premières grandes occasions d'aller gagner de l'argent, mais aller jouer en Première Ligue, essayer de sauver Cardiff, hein, qui est 18e et un peu en perdition dans le classement, et puis c'était aussi parce que justement il s'était illustré sur le plan des buteurs dans cette équipe en championnat de France.
Oui, parfois on parle d'ironie de l'histoire, mais là les mots c'est tragédie de l'histoire, parce qu'il avait pas vraiment envie de partir. C'est le foot business qui l'a rattrapé. En fait, c'était un produit de transfert dont le club avait besoin, sur le dos de l'entraîneur, Hugo le disait. Et lui, c'est toujours, effectivement, on va encore parler au présent, c'est toujours comporté de manière totalement loyal vis-à-vis du club, c'est-à-dire qu'il aurait pu vouloir absolument forcer les portes de Cardiff pour un salaire mirobolant, mais non, il est resté loyal, il est resté impliqué. Et puis, eh bien, le foot business a aujourd'hui ses règles, qui fait que les joueurs, entre guillemets, sont des pions. Et puis là, le départ se transforme en tragédie absolue.
Mmh. Un avion qui malheureusement disparaît. On l'avait vu justement apparaître parce que il avait marqué son dernier but a été marqué à Nîmes, si je me trompe pas. On avait cherché tout à l'heure dernier but marqué à Nîmes dans le championnat. Le dernier but c'était contre l'OM.
C'est son dernier match à Nîmes et son dernier but. Voilà. Contre l'OM.
C'était le 5 décembre à La Beaujoire, justement.
Il a un formidable jeu de tête. Il était toujours à la finition des actions nantaises. Voilà, c'est comme l'a dit Hugo, c'est pas le plus grand attaquant du monde, mais il est opportuniste. Il a le sens du but. Il a un état d'esprit incroyable qui fait qu'il ne renonce jamais. Il parlait même en début de saison, quand il a commencé à empiler les buts, d'un éventuel appel en sélection argentine, ce qu'il n'a jamais goûté. Mais il ne désespérait pas. Il y a un nouveau sélectionneur après Sampaoli qui teste des nouvelles têtes, qui pour l'instant se passe de Cador comme dit Maria. Donc il espérait, sans trop espérer, évidemment. Évidemment, c'est une tragédie, comme l'a dit Gilles. Il y a beaucoup, le football n'échappe pas aux tragédies humaines. Il y a le propriétaire de Leicester qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Il y a une équipe qui a été décimée, Chapecoense, il n'y a pas très longtemps.
Chapecoense, oui, le club brésilien.
Brésil, donc ça arrive, des catastrophes aériennes arrivent à tout le monde, et y compris aux gens du football.
C'est surtout Philippe, il s'était illustré cette année. C'est vrai qu'on parlait justement de ses buts, son triplé. Il avait marqué son premier doublé aussi récemment. L'année dernière, il a quand même marqué les deux dernières saisons à chaque fois 12 buts. Là, en une demi-saison, il en avait marqué autant. Donc, c'est pour ça aussi que ces temps-ci, on parlait beaucoup de lui en France.
Oui, c'est une éclosion effectivement assez tardive
pour un garçon qui était à Bordeaux il y a bien longtemps déjà, et puis qui a mis beaucoup de temps à percer, beaucoup de persévérance, hein, beaucoup de volonté. C'était un joueur plein de volonté qui se battait vraiment comme un chien sur le terrain. Et ouais, que dire sur ce genre de choses. Oui, vous avez raison de souligner, parce que c'est pas anecdotique, que c'est un garçon qui effectivement a beaucoup progressé. Il a beaucoup progressé, il se battait tellement qu'il avec beaucoup d'entre gens, on sent vraiment avec une motivation extrême. Il avait progressé. C'était un exemple, ouais, dans la profession. C'était effectivement un exemple.
On peut avoir des qualités techniques assez limitées et montrer qu'on peut intéresser le championnat le plus spectaculaire du monde, l'Angleterre. On peut être en tête avec Neymar et Mbappé au classement des buteurs, alors qu'on n'est pas forcément doté des mêmes atouts.
Ce qui est amusant, c'est qu'il aurait rejoint un championnat où il y a un autre Salah buteur qui brille, n'est-ce pas, qui a déjà marqué lui 16 buts, alors que Salah ici en était à 12. Gilles.
Et Cardiff, qui n'est pas très bien classé, misait beaucoup sur lui, justement sur ses qualités physiques de jeu de tête. Dominique en parlait tout à l'heure, d'abnégation, de lutte, de duel pour tenter de se sauver. Et Cardiff avait vraiment fait le forcing pour l'arracher à Nantes contre l'avis de Vahid Halilhodžić.
Je trouve que c'est très triste en fait, parce que c'est un jour très triste. Parce que, comme l'a dit Gilles, certes c'est le football business, mais il accédait à une forme de reconnaissance un peu tardive en signant dans un championnat
à 28 ans.
Anglais, sans doute avec une valorisation salariale par rapport à Nantes. Et là, si on ne le retrouve pas, ce qui malheureusement semble être parti pour, c'est un destin brisé comme ça qui est... C'est embêtant pour ça arrive à n'importe qui, mais c'est encore plus embêtant que ça arrive à lui.
Et d'ailleurs en Argentine, il était fort peu connu. On en parlait avec Alejandro Valente ce matin, mais la logique de l'information fait que les photos d'hélicoptères de recherche et sa photo fait la une de La Nation et du journal de sport argentin Olé. Hugo, un petit mot?
Oui, simplement pour rappeler, et Dominique le faisait déjà tout à l'heure, que effectivement le football n'est pas épargné par les tragédies aériennes. Vous avez rappelé des tragédies récentes, des drames récents. On se souvient également de drames historiques, l'équipe du Torino en Italie en 1949, et bien sûr celle de Manchester United à la fin des années 50, des drames qui ont marqué l'histoire aussi du
football. Ouais, mais c'est vrai, quand une équipe disparaît, c'est aussi très différent.
Mais c'est vrai que dans le foot, tout le monde prend sans cesse des avions privés, même d'ailleurs pour des...
Mais il l'avait pris samedi.
Sauf Denis Bergkamp, qui avait une peur panique de l'avion et qui n'a quasiment jamais pris l'avion durant sa carrière.
Il l'avait pris samedi.
Il a quand même été à la Coupe du Monde 94, mais après il ne voulait plus prendre l'avion. Effectivement.
Il l'avait pris samedi d'ailleurs, cet avion, pour aller signer son contrat justement, et là il était revenu faire un tour. Hier, il était au centre d'entraînement.
Saluer ses coéquipiers, c'est ça qui est encore plus dramatique.
Je pense que les Nantais doivent être très très marqués.
Ah oui, très très.
Parce qu'ils l'ont vu hier soir prendre des affaires et dire salut, vider son casier, et le matin il se réveille et sur les réseaux sociaux ils apprennent que son avion est disparu.
Il n'y a pas eu d'entraînement ce matin et il n'y aura pas demain la fameuse rencontre de Coupe de France que devait disputer Nantes avec le petit club de Saint-Gratien, ici le club de la région parisienne. Oui, et le match a été annulé. Voilà pour ce qui est donc de la disparition de Emiliano Sala. Adrien Rabiot contre-attaque. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a saisi la commission car il n'admet pas la mise à l'écart juridique. Sa mise à l'écart, il recourt devant la commission juridique car il n'admet pas sa mise à l'écart de l'équipe première et il se retrouve avec l'équipe réserve. Le syndicat des joueurs professionnels, l'UNFP, défend d'ailleurs Adrien Rabiot dans cette requête. Il estime que le jeune footballeur formé à Paris est victime d'un vrai harcèlement de la part des dirigeants et de son club depuis qu'il a refusé, vous le savez, on en a déjà parlé ici, de prolonger son contrat professionnel avec Paris, ce qui fait qu'il sera libre et surtout que le club ne toucherait pas d'argent au moment de son changement à la fin de la saison au mois de juin. Dominique, vous pensez aussi que c'est du harcèlement contre Adrien Rabiot?
Oui, c'est une forme de harcèlement moral qui vise à faire craquer le joueur, soit par la parole. Il peut par exemple prendre la parole dans un média et dire on me traite mal, et puis s'emporter, dire des mots qui dépasseraient sa pensée à l'encontre de ses dirigeants par exemple, ou craquer physiquement, soit ne pas aller à l'entraînement parce que la réserve c'est un peu dégradant, c'est un international. Certes, avec Didier Deschamps, il a des problèmes. Il serait sans doute pas revenu tout de suite en équipe de France, peut-être jamais. Mais c'est un international et qu'il aurait pu, voilà, de dire j'y vais pas. Donc s'il va pas, il se met à la faute à l'entraînement. Et oui, c'est une volonté de le faire craquer. C'était déjà employé avec Atem Ben Arfa, ça n'a pas marché. Atem Ben Arfa est allé au bout de son contrat. Il a dit Atem, soit vous me payez, par exemple, il restait un an, bah vous me payez l'année et puis je m'en vais. Si vous voulez pas payer l'année, bah je reste. Et bah, ils l'ont envoyé en réserve, ça n'a eu aucun effet. La commission juridique de la Ligue a donné raison à Atem Ben Arfa. C'est évidemment ce qui va se passer dans l'affaire Rabiot, mais il va être intégré demain ou après-demain parce que le PSG joue avec l'illégalité, mais provisoirement, voilà, jusque ce qu'ils
mettent le fil.
Ils mettent le curseur, puis après ils le remettent à un autre endroit. Voilà, c'est une stratégie d'Antero Henrique qui est définitivement incompétent pour être directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il y a aussi un mercato en ce moment. Paris Saint-Germain a besoin d'un milieu. On est le 23 janvier.
22.
Il est toujours pas là. Celui-là est toujours pas là, ce milieu de terrain. Donc, voilà un peu la situation du Paris Saint-Germain qui fait que c'est pas un grand club encore.
Mais ils recherchent quoi, les Parisiens? Excusez-moi. Ils recherchent quoi? C'est.
Des mesures vexatoires.
C'est simplement pour se venger du fait qu'il n'est pas prolongé.
Non, c'est une manière de lui dire pas.
Le pousser
à
le faire partir
maintenant. On a une période de mercato, ils peuvent encore récupérer 10 à 15 millions d'euros.
Pour le faire partir dès cet
hiver. C'est pour le faire partir là, maintenant, avant le 31 janvier.
Et récupérer de
l'argent. Mais il ne veut pas partir, donc il va rester.
Philippe ?
Oui, bah c'était extrêmement bien décrit. C'est-à-dire, c'est des conflits juridiques dans lesquels les clubs perdent systématiquement. La commission générale de la Ligue, évidemment, fait respecter la charte du football professionnel qui protège les joueurs, qui fait qu'un joueur, on ne peut pas l'envoyer un joueur qui a le statut de professionnel, on ne peut pas l'envoyer s'entraîner avec les cadets juste pour l'énerver ou juste pour l'obliger à s'entraîner à 6h du matin. On ne peut pas faire ça. Il y a la charte du football professionnel qui protège les joueurs. Donc les clubs utilisent ce genre de méthode de temps à autre pour essayer de faire craquer le joueur, mais la plupart du temps, ça se finit à la commission juridique, puis le club perd, et puis s'écrase, et puis réintègre le joueur, et puis il essaie de le refaire craquer à un autre moment, et puis ça marche jamais.
Mais Gilles, pour le faire craquer, c'est quoi? C'est pour qu'il signe une prolongation, finalement?
Ah ça, je crois que plus personne n'y croit. C'est effectivement pour récupérer un peu d'argent maintenant. Mais dans cette affaire, c'est perdant-perdant. Je suis d'accord pour dire que le directeur sportif est totalement incompétent. C'est un clown qui fait rire l'Europe entière, voire le monde. Je prononce jamais son nom. Mais Dominique l'a fait très bien. Mais la deuxième chose, c'est que les caprices financiers du joueur ont lassé le PSG du Qatar. C'est-à-dire qu'à force de demander des surenchères, à force que sa mère soit également omniprésente, le PSG ne veut plus de Rabiot. Donc tout le monde y perd. Moi, ce que je ne voudrais pas. Alors là, chacun est dans son rôle. Il y a la légalité. Il doit être entre guillemets réintégré à l'entraînement. Mais moi, je voudrais pas qu'il rejoue pour le PSG. Parce que pour moi, c'est un symbole négatif. C'est l'anti-amour du maillot. C'est je veux plus d'argent sans cesse, des caprices à répétition. Il mérite pas de jouer au PSG.
Mais on voulait pas le laisser partir, c'était ça, non, le début du conflit.
Avant
il voulait partir.
Les joueurs qui veulent plus d'argent, j'en connais à peu près 1500, il serait le 1501e. Je vois pas très bien, l'amour du maillot.
C'est le désamour du maillot pour moi, lui. C'est donnez-moi de l'argent, faites-moi jouer à telle place, les caprices permanents, le nom à l'équipe
mais
de France.
Ils sont tous comme ça, non?
Pas jusqu'à ce point-là. Moi, ça m'a supporté, je vous le dis.
C'est pas N'Golo Kanté, ça c'est sûr. Hein. Il a pas la mentalité exemplaire d'N'Golo Kanté.
Eh ben voilà.
Qui paye ses impôts.
Ça d'accord, mais qui paye tout à la réalité, qui vient s'inviter chez les gens.
Effectivement, ce qui va être intéressant à suivre, c'est l'attitude du Paris Saint-Germain, parce qu'un club se fait...
respecter.
Il peut avoir tort ou raison, mais en tout cas, il doit se faire respecter et avoir une certaine logique. Effectivement, s'il réintégrait Rabiot le 9 février, parce que tout d'un coup, un autre milieu de terrain s'est blessé, qu'ils se disent, on n'a plus de milieu de terrain, il faut absolument qu'il joue, ce serait totalement grotesque.
Alors, le
club se ridiculiserait. Donc.
Justement, pourrait-il rejouer? On a la sensation, et on va l'entendre, que Thomas Tuchel, l'entraîneur, entrouvre la pauvre porte et entrouvre cette possibilité, parce que lui, il pense avant tout au match qu'il doit disputer avec son effectif.
Viens pas mettre le nez dans mes affaires.
J'ai une bonne relation avec Begadri et il fait un entraînement très très professionnel, c'est pas un problème, mais la situation entre le club et Adri, il est un joueur de centre de formation, c'est une situation compliquée et pour ça c'est nécessaire d'attendre, mais je suis ouvert pour toutes les choses. C'est difficile, pas pour moi, seulement pour moi, mais pour l'équipe et pour tous ici. On cherche depuis l'été et maintenant c'est le 21 et on a besoin. Beaucoup de choses sont passées et maintenant on a perdu pour ce moment Adrien Lastiara et Marco Verratti. Okay. C'est, la situation, ce n'est pas amélioré.
Ben oui, voilà, Dominique.
Mais du bon son, hein.
Et la situation ne s'est pas améliorée.
Oui,
et,
mais alors,
et justement, il reste 8 jours, on le disait, de mercato, mais il y a eu la blessure de Verratti au cours du week-end. Là, Sanadiara, il a un peu disparu des tablettes, sûrement des entraînements. Est-ce que le Paris Saint-Germain a le choix? Alors que finalement, on peut critiquer Adrien Rabiot pour certaines attitudes. On l'a aussi critiqué en équipe de France et on se souvient du psychodrame de l'équipe de France. Il a aussi un peu brouillé sa propre image lui-même, mais sur le terrain, quand il joue avec le Paris Saint-Germain, il est là quand même.
Oui, c'est plutôt un bon joueur. Mais là où je suis
voire
pas...
très bon parfois.
Bah oui.
Pas toujours.
Bah, quand même. Il y a mieux que Adrien Rabiot. Hein. C'est pas non plus.
Idrissa Gueye, c'est mieux qu'Adrien Rabiot.
Même profil. Si on revient avec assistance. C'est plus un profil de plus défensif. Adrien Rabiot, il aime bien se projeter vers l'avant. Mais par rapport à ce que disait Philippe, la palette à doudous. Qu'est-ce qui est le plus ridicule pour un club?
Nos auditeurs n'oublient pas, hein, Philippe, parce qu'ils l'écrivent aussi beaucoup sur la page Facebook, vous inquiétez pas.
Qu'est-ce qui est le plus ridicule pour un club, c'est de perdre la face du point de vue de l'image en intérieur radio, ou c'est de se faire éliminer contre Manchester United, alors que vous étiez au tirage au sort plutôt favori. Bon, les choses se sont équilibrées depuis avec le départ de Mourinho et l'arrivée de Solskjaer, mais qu'est-ce qui est le plus ridicule? Sortir des huitièmes de finale une nouvelle fois, ou réintégrer Rabiot, et peut-être que c'est lui qui le 6 mars au match retour vous mettra le but de la qualification?
Non, mais je crois qu'il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'un joueur qui n'est plus dans l'état d'esprit, je pense, ou alors il me surprendrait beaucoup, il n'a pas eu ni la préparation ni l'état d'esprit pour rentrer dans l'équipe comme ça.
Mais il a plus joué depuis le 12 décembre. Donc
oui.
Vous pensez qu'il va plus jouer du tout et que Barcelone, par exemple,
moi, je pense qu'il jouera pas, non.
Va le prendre comme ça et qu'il va rester 7 mois sans jouer.
Oui, bien sûr, ouais. Ça, c'est pas un souci.
Gilles.
Ça, c'est pas un souci. Par contre, le souci, c'est de se dire, finalement, dans 10 jours, on y joue, et il faut qu'il soit compétitif en plus, là.
22 jours d'ici la rencontre à Manchester.
Il a pas fait le stage au Qatar, hein, le stage de la semaine dernière.
Non, bien sûr.
Il a perdu sa grand-mère.
Il peut pas rejouer, parce que sinon, c'est l'institution PSG qui est en danger. Alors, je suis pas fan du PSG du Qatar, hein, ni de ce pourquoi le Qatar est venu à Paris, vous le savez. Mais, c'est une vaste hypocrisie, mais c'est pas le débat. Mais le Qatar, veut faire régner l'ordre. C'est-à-dire que le Qatar, il n'y a pas une tête qui dépasse. Donc si maintenant, celle de Rabiot a le droit d'émerger, alors que tant d'autres ont été brisés sur l'autel de la volonté féroce du Qatar de faire respecter l'ordre, plus personne n'y comprendrait rien. C'est la fin du PSG du Qatar. Ils ne peuvent pas réintégrer.
Si, moi j'y comprendrais quelque chose. J'y comprendrais que c'est la volonté de l'entraîneur, Thomas Tuchel, et que l'entraîneur a été nommé par...
plus fort que le Qatar.
Il a été nommé par le Qatar. Il n'a pas été nommé par la direction sportive, Théron Riquet, votre ami, ou Nasser El Khelaifi, le président. Il a été nommé par Doha. C'est-à-dire, c'est un ambassadeur proche de l'émir du Qatar qui a un consul qui a dit vous devriez vous pencher sur Thomas Tuchel, c'est un bon choix. Donc il est légitimé par Doha. Et donc ça lui donne une légitimité supplémentaire.
Hugo ?
Oui, je voulais demander un petit peu, selon vos informations, qu'en pensent les autres joueurs du PSG, les coéquipiers d'Adrien Rabiot, sont sûrement conscients qu'il y a un problème au milieu de terrain, en tout cas qu'il y a un manque dans ce secteur de jeu. Est-ce que eux, ils sont pour la réintégration de Rabiot malgré le conflit qui l'oppose à ses dirigeants ?
Bon, comme d'habitude, il y a à peu près 3 groupes. Il y a ceux qui s'en fichent complètement. Il y a ceux qui veulent qu'ils reviennent, style Kimpembe, Areola, les Kurzawa, les Français.
Ses amis,
groupes, issus
avec
lesquels issus du centre de formation,
Areola,
Kimpembe, voilà. Et puis d'autres qui se disent, tiens, c'est une nouvelle facétie du club. L'année dernière, j'avais vu Atem Ben Arfa en réserve, alors que je le trouvais très bon aux entraînements. Ça, c'est Dani Alves qui arrêtait pas de dire ça. Il appelait il phénoméno quand même. Hein. Et donc, mais c'était pas de la moquerie, hein, parce qu'il le trouvait vraiment exceptionnel, et qui se disent, tiens, bon, c'est une facétie supplémentaire du Paris Saint-Germain, un club décidément à part.
Gilles?
Non, mais il faut surtout pas reprendre Rabiot parce que c'est pour moi c'est sa mentalité qui risque d'influencer ses coéquipiers négativement. Donc je suis d'accord qu'il peut parfois être bon, irrégulier mais bon, mais c'est pas parce que Verratti s'est blessé, c'est pas parce que le marché des transferts est compliqué que le club doit céder. Encore une fois, ce club-là, il s'est fondé sur aucune tête ne dépasse. Souvenons-nous, même des entraîneurs comme Ancelotti n'ont pas résisté à ça. Donc si maintenant Adrien Rabiot au bout de tant d'années remet tout ça en cause, c'est l'effondrement du PSG du Qatar. Voilà.
Je pensais que vous étiez du côté des joueurs, moi. Mais là, vous êtes du côté du pouvoir.
Mais non. Je dis, je n'aime pas ce pourquoi le Qatar est venu. Mais là, vous êtes en train de prôner l'effondrement de l'institution PSG.
Si tant est qu'elle existe.
Honnêtement, footballistiquement, je pense que même Tourelle aurait beaucoup de mal. Il vaut mieux des joueurs qui soient dans le groupe, qui soient intégrés, qui se soient entraînés et qui ne sont pas des milieux de terrain, comme Marquinhos, comme Draxler, comme Di Maria.
De toute façon, lui, il veut pas jouer en numéro 6 en plus, hein, on s'en souvient très bien.
Oui, enfin bon, là, peut-être, on peut éventuellement penser que là, Rabiot dirait, je veux bien jouer.
Surtout qu'à Barcelone, c'est pour jouer 6 qu'ils le prennent. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il y joue. Hein.
Est possible qu'un jour dans sa carrière, Rabiot dise, effectivement, je pourrais jouer sur un terrain de football.
Je crois que je me suis trompé, j'aime bien jouer 6.
En tout cas, quand on discute avec des responsables de l'UNFP, on y reviendra de toute façon un jour dans Radio Foot, mais ils se plaignent aussi de cette mode finalement de mettre des joueurs comme ça à la réserve.
Parce qu'il n'y a pas que le PSG.
Et de faire du champ. Non,
alors. Il n'y a pas que le PSG qui fait ça, bien sûr.
Il me disait qu'il y a à peu près une centaine de cas, et notamment par exemple à Reims, il y avait un certain joueur, on va l'appeler Anatole parce que son nom est Gamol, si je ne me trompe pas. En tout cas, il avait été licencié finalement pour faute grave, mais il avait été mis comme ça à la réserve.
C'est moins médiatique, mais. Voilà. Et surtout avec des jeunes. Ils se servent de ce levier-là.
Parce que c'est de la mise à l'écart, donc une forme de discrimination. Vous avez le droit de créer un deuxième groupe d'entraînement, mais il faut le déclarer dans les formes, sinon...
On a plus le droit de lofter, comme on dit. En 2001, Marseille a inventé le loft, c'est-à-dire qu'ils avaient 38 joueurs, donc ils pouvaient pas s'entraîner tous ensemble. Donc, c'était le retour de Bernard Tapie, deuxième époque, manager sportif, et il avait créé une sorte de loft, donc c'est-à-dire des joueurs dont l'entraîneur ne veut pas, une quinzaine qui s'entraînent à part. Sauf que ça, c'est interdit par la charte du football français.
Et oui. Et alors, il y a des cas actuellement au Havre, à Toulouse. Donc, il y a plein d'histoires. Le petit jeune qui voulait signer au Barça, Jean-Claire Todibo.
Qu'on a mis
un peu à l'écart, parce qu'il veut partir. Enfin bon, tristement, on n'en est pas au premier exemple avec Rabiot.
Oui, le souci, me semble-t-il, c'est aussi que quand on lit les réactions sur les réseaux sociaux, les supporters du PSG ont plutôt tendance à se ranger du côté du club, en oubliant que le footballeur est un travailleur comme les autres. Est-ce que c'est pas un petit peu un souci aussi, considérer que les footballeurs sont trop privilégiés pour être traités comme des travailleurs lambda?
Les supporters se rangent effectivement, vous avez raison, ils se rangent quasiment systématiquement du côté du club. Ils estiment que le joueur effectivement est un salarié à part, trop payé, etc.
À manquer de respect au
maillot. Et donc il
ne
doit pas manquer de respect au maillot, etc., etc. Mais plus globalement, la faute, enfin pour analyser globalement ces histoires de contrats, la faute elle est totalement partagée. Les clubs font signer aux joueurs, c'est pas le cas de Rabiot, mais font signer aux joueurs des contrats de 5 ans, par exemple, ou 4 ans ou 3 ans, en se disant de toute façon il est hors de question d'arriver à 5 ans. Il est bien entendu, et ils en parlent même avec le joueur et l'agent, en disant bon,
d'ici
deux ans, ou trois ans, enfin on verra, ou si ça se passe mal, un an.
Il y a toutes les histoires de prêts et tout, on sait en plus.
Et ce sera pour un transfert de telle valeur, etc., etc. Et tout le monde est d'accord. Joueur, club, etc. Et puis il y a un moment où ça change, c'est que tout d'un coup le joueur se retrouve à un an et demi de la fin de son contrat, que le club commence à l'approcher. Que ça se passe, la relation n'est pas bonne, que le joueur commence à dire, attends, le club, je vais pas leur faire le cadeau de re-signer. Donc, et tout se dégrade, etc. Donc, les fautes sont partagées. Les deux ont une volonté un peu suspecte et une volonté qui est très financière. Le joueur Rabiot, il a très envie d'être transféré directement parce que la prime à la signature, s'il n'y a pas de transfert, vous rendez compte que la prime à la signature, c'est-à-dire, pratiquement comme un transfert, 10 millions, c'est pas rien, c'est directement dans sa poche. C'est
plus pareil. On peut pas lui reprocher de vouloir aller au terme de son contrat et de choisir de signer où il veut selon sa propre volonté et d'aimer sa liberté. Moi, Rabiot, j'ai rien pour... il m'enchante pas comme joueur, forcément, et j'aurais préféré qu'il re-signe au Paris Saint-Germain, mais s'il a envie de partir, il fait ce qu'il veut.
Non, sauf qu'il s'est délibérément mis à l'écart, là, Dominique. Vous pouvez pas l'exempter de responsabilité,
Il a mis à l'écart parce qu'il a refusé signé Gilles. C'est-à-dire que je ne fais pas comme Monsieur Enrique ou comme le Qatar veut, donc je suis blacklisté. Ça se passe pas comme ça dans la vie.
c'est sûr.
Restons en Ligue 1 encore quelques secondes pour évoquer cette nouvelle, on va dire, ou en tout cas cette rumeur surgit hier soir. Leonardo Jardim entraînerait bientôt l'Olympique Lyonnais. Enfin, bientôt, ça serait la saison prochaine. Alors bon, quand on essaye de chercher un peu l'origine de la formation, il s'agit plutôt de déduction, hein, et souvent au conditionnel. Il y a cette déclaration à nos confrères de l'équipe de Leonardo Jardim qui dit qu'il va entraîner un autre club français la saison prochaine, qu'il aime la Ligue 1. Et puis après, il y a ça se double avec les agissements, on va dire, d'un intermédiaire. Là, c'est pas vraiment un agent, mais l'Israélien Pini Zahavi, qui avait déjà joué un rôle dans la venue de Neymar au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous? Est-ce que c'est la page Genesio est prête de se tourner à Lyon?
Bruno, il a remplacé Hubert Fournier,
ouais,
à la 13,
en milieu
ça
de
fera
saison.
Deux ans et demi qui sera là.
C'était
trois
la saison
ans.
2015-2016.
Alors donc, ça lui fera
deux ans et demi.
Trois ans, non, on va être en 2019. Trois ans et demi.
Il va jouer sa troisième saison complète.
Voilà, c'est en général le cycle d'un entraîneur. Donc Genesio, que j'aime beaucoup. Je trouve que son travail est bon à Lyon. Alors il a un problème avec les supporters, mais j'ai toujours pas compris pourquoi.
Non. Mais on n'a pas très bien compris.
Non, j'ai pas très bien compris.
Sur le dos, tous les supporters.
Voilà. Et pourtant, étrange. Il perd pas contre Manchester City. Il se qualifie pour la Ligue des Champions. Il est dans les clous.
Il gagne
pas
le derby.
Il gagne les derbies. voilà. Il communique plutôt pas trop mal, même si des fois il fait des erreurs, comme tout le monde. Parfois, il y a des Lyon n'a pas envie. Et c'est vrai qu'on dirait que son Lyon se réveille face aux petits, aux Reims, aux Toulouse.
Voilà, il y a des irrégularités. Il n'a pas toujours été en Ligue des Champions. Il s'est pas toujours qualifié en Ligue des Champions.
C'est pas Pep Guardiola, mais même Pep Guardiola ne réussit pas tout.
Justement, il est ironique.
Surnommé
Pep Genesio pour ses voilà, audaces tactiques moins voilà. Heureuses, disaient les
mais
supporters.
Mais bon,
lyonnais.
Toujours est-il que je pense que dans un club de Lyon, avec Aulas, aussi éreintant du point de vue de l'exposition médiatique, de l'exposition présidentielle, je pense que c'est un cycle de 3 ans et demi, c'est ce qu'il faut. Et moi, j'avais plutôt entendu parler de Laurent Blanc comme successeur. Je pense que Jardim passe une petite annonce, en fait, ouais. Et qu'il dit, on est en février ou on est en janvier, il dit, voilà, n'oubliez pas que je suis bientôt disponible,
là.
Parce qu'il peut aussi très bien aller entraîner en Angleterre, au Portugal, en Espagne.
Mais en France, s'il restait en France, il n'y a pas de temps de club.
En France, il va partir à Monaco, donc il reste Marseille.
Vous voyez à Marseille?
Rudy Garcia pourrait ne pas finir la saison ou la finir et puis s'en aller, ou être viré. Mais il n'y a pas 56 solutions, quoi.
Gilles, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien de la part de Jardim de comme ça de se poser candidat. C'est pas bien de la part de cet agent qui tente de s'imposer à Lyon en brouillant les pistes. C'est méprisant pour le travail de Genesio. C'est disgracieux pour Aulas. Moi, j'espère que ça se fera pas. Je sais pas si ce sera Genesio ou un autre, mais pas dans ces conditions. C'est sale, quoi.
J'ai l'impression que vous découvrez un peu le football business aujourd'hui.
Non, mais moi,
j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le 22 janvier, comme l'a dit Annie. Découvrez les règles du football
je préfère
business.
Conserver ma pureté originelle.
Ultra libéral, sauvage.
Non, je ne veux pas céder aux sirènes de l'argent, comme certains d'entre vous ici, je le découvre. Et c'est disgracieux. Moi, je respecte les institutions. Lyon est un grand club. Il n'y a pas des gens comme ça qui peuvent dire « je veux le poste ». Dès que vous levez la main pour dire « je veux le poste », moi, je réponds « vous ne l'aurez pas ».
Ce qui n'est pas disgracieux dans le football, c'est un dribble de Messi, c'est une frappe de Mohamed Salah, mais tout le reste,
non,
c'est
pas
ça.
Bien. Franchement,
mais non,
c'est pas bien.
Le football,
c'est que des combines,
c'est que de la saleté, c'est que de l'anarchie.
C'est beaucoup, mais il faut les dénoncer.
On a parlé avant de Rabiot. Mais le football, c'est le système ultralibéral le plus poussé sur Terre.
Il faut le dénoncer.
Et donc, l'anarchie règne. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous découvrez, en fait, que
Gilles
c'est un monde...
Gilles se rebelle. Et Philippe, vous, alors?
Mais je le rejoins un peu.
Ouais. Ah, ça,
finalement, je rejoins un peu.
Non, ça, vous êtes assis à côté.
Pur ou naïf?
Non, mais ça n'a rien de naïf que de dire, on n'est pas naïf du tout, au contraire. C'est pas naïf du tout. On sait très bien ce que veut faire Jardim. On sait très bien son réseau d'agents autour. On sait que c'est pas la classe du tout autour de Jardim. On peut avoir une bonne opinion de Jardim. Moi, j'en ai une modérée plus, mais pas. Pour moi, c'est pas le meilleur entraîneur du monde, loin s'en faut.
C'est pas Pep Jardim non plus.
C'est pas Pep Jardim du tout. Mais bon, en France, on affecte de penser que c'est un formidable entraîneur. Tant mieux.
Il a fait des choses plutôt intéressantes à Monaco.
Je le respecte. Par contre, tout le maelstrom d'agents autour, etc. Franchement, ça n'a aucune classe. Et je ne vois pas pourquoi on serait là à dire « Ah bah oui, c'est le jeu, etc. » Non, c'est pas classe du tout. C'est assez naze comme méthode.
Oui, mais
c'est pas bien, c'est pas beau.
Mais c'est pas le premier, c'est pas le dernier.
Ah bah non, c'est pas le dernier.
On les dénoncera les autres aussi. Ah, oui,
mais venez à 8h du matin, parce que vous n'avez pas fini. Hein.
Ah mais non, on n'a qu'une heure d'antenne. Dominique, c'est ça, même pas. Ah,
jusqu'au 31 janvier, on a du boulot. Il y a plein de mecs à dénoncer.
Allez, on va voir les beaux gestes du football du côté de l'Espagne. Le Real Madrid est-il de retour? Alors de retour, bien sur le podium, il l'est puisqu'ils sont troisième de la Liga depuis ce week-end avec un Modric buteur, Luka Modric et puis Casemiro aussi, et les deux hommes en forme. Est-ce eux finalement ou grâce à eux que le Real Madrid relève la tête, Philippe Doucet? Est-ce que cette équipe qui a sans doute perdu le titre parce qu'elle est déjà à 10 points du Barça, mais rien n'est impossible. En tout cas, elle est à 5 points de l'Atlético. Est-ce que l'objectif de l'année sera sans doute d'être le dauphin du Barça une fois encore?
Bon, l'objectif, il va ressembler comme l'année dernière à la Ligue des Champions.
L'a gagné encore une quatrième fois.
Mais pourquoi pas? L'année dernière, ils n'ont fait que ça.
Ils sont sans Cristiano Ronaldo quand même cette année.
Ils étaient complètement largués. Ils étaient complètement largués en championnat. Ils ont abdiqué très très vite sur le championnat. Après, il faut juste assurer une place parmi les quatre premiers. Alors, c'est mieux d'être devant l'Atlético que derrière, on est d'accord. L'année dernière, ils n'y étaient pas parvenus. D'ailleurs, ils étaient troisième à l'arrivée. Et donc, l'objectif, les quatre premières places, ils vont l'assurer parce que Solari fait des choses relativement simples, voire très très basiques. C'est vraiment un management très très basique. Si ce n'est qu'il fait quand même... Il commence à amorcer des changements.
Et il y a des choix forts, des cadres.
Oui, tout à fait. Il commence à amorcer les changements qu'il y aura de toute façon. Tout le monde sait qu'à la fin de la saison, il va y avoir énormément de choses qui vont changer.
Il y a beaucoup
de choses.
Et sans
doute d'ailleurs, y compris l'entraîneur. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer.
Mais ils n'auront pas le PSG d'Unai Emery pour se relancer cette fois-ci, hein. Qui leur a donné un second souffle.
Mais il y avait Zidane et Cristiano Ronaldo.
Ils se sont relancés eux-mêmes.
À 1-0, 8e de finale aller, largué en championnat, quasiment éliminé Ligue des Champions, ils étaient pas bien. Emery arrive, fait ses changements. Là, le Real Madrid passe devant.
Non, mais là, c'est un peu caricatural.
Bah non, mais c'est la vie.
Pour le moins. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de janvier.
Je découvre qu'Unai Emery n'est pas fait pour les grands clubs.
Non, mais à partir de janvier, le Real s'était redressé l'année dernière. Cette année, c'est un peu le cas. Indiscutablement, l'équipe, elle est moins forte. Elle est moins forte cette année.
Il s'est passé quelque chose.
Donc, même s'ils se redressent un peu et qu'ils vont assurer sans problème.
Quand même, parce que là, on les a vus presque en milieu de tableau. Le Real, on n'avait pas l'habitude.
Non, mais là, c'est mieux, heureusement que le Ballon d'Or est l'un des meilleurs milieux au monde, Casemiro, le Brésilien. Parce que ça fait longtemps qu'on les attend quand même cette saison. Ils ont peu été là, les joueurs qui devaient prendre la succession un petit peu morale, du leadership moral de Cristiano Ronaldo.
Ouais, alors il y a peut-être un contre-coup, les contre-coups de la Coupe du Monde et tout. Et puis, ce qu'on sait aussi, Gilles, c'est-à-dire que souvent, cette équipe, elle est prête en mode Ligue des Champions en début d'année.
Absolument, ils forment un commando. Ça ne peut plus être une équipe régulière, mais c'était pareil avec Zidane sur la fin. Hein. C'est une équipe de coups, donc de coupes. On l'a vu déjà au niveau des clubs, au championnat du monde des clubs, hein, qu'ils ont remporté. C'est pas la plus brillante des compétitions, mais ils sont là pour les coupes. Ils peuvent refonder ça, et je suis d'accord avec Dominique. Modric, dont j'ai vivement, et je continue encore, contesté le Ballon d'Or, parce que ça aurait dû être attribué à un Français, bah là, il continue à faire une super saison, enfin, un début d'année quand même.
Début d'année plutôt, constant. Il revient.
Oui, mais là, quand même.
Ça l'avait un peu plombé, son Ballon d'Or.
Oui, mais sur les derniers matchs, il est sa Coupe du Monde aussi, de perdre en finale, mais sur les derniers matchs, là, il est là, c'est un joueur, on parlait de joueurs qui manifestent leur courroux, leur mécontentement, aux égos surdimensionnés par rapport au talent, c'est pas le genre, donc c'est un joueur formidable.
Alors voilà le Real en 3ème place.
Mais 6 défaites en championnat, Annie, c'est beaucoup trop. 6 défaites en championnat.
Non, mais c'est énorme pour cette équipe, effectivement. Oui. Donc voilà pour ce qui est du Real Madrid. Et puis nous avons le Barça. Et le Barça qui continue à tracer sa route en tête de championnat, et grâce notamment à un certain buteur.
Jordi Alba que recibe la pelota, tres en el área que esperan, Dembélé de primera.
Dembélé dans la voix de nos confrères espagnols, toujours aussi fort pour ce qui est de prononcer ce mogol. En tout cas, c'est son 8e but à Ousmane Dembélé, 13e but toute compétition confondue. Alors il s'est blessé, mais apparemment il devrait être là pour jouer contre Lyon à Lyon en Ligue des Champions.
Il a pris pour deux semaines.
Le 19 février, oui. Est-ce que ça vous surprend, Gilles, que Ousmane Dembélé finalement un peu contre toute attente, parce qu'on se souvient de son transfert, de sa blessure l'année dernière, finalement, ce retard qu'il a mis, et puis après, les retards qu'il avait parfois à l'entraînement qui ont fait beaucoup jaser. Mais est-ce que ça vous surprend que peut-être que son jeu s'adapte ou que lui s'adapte, on va dire, à cet effectif?
Ben, très franchement, oui, parce que c'était pas gagné, parce que c'était quand même une arrivée de substitution dans un club qu'on disait en reconstruction. Il est là, il est fort, sa vitesse d'exécution, non pas son potentiel physique, mais son explosivité font mouche, et il est devenu une pièce essentielle de Barcelone. Donc oui, je réponds à votre question avec humilité. Je n'aurais pas pensé qu'il puisse manquer au Barça, même pendant 2 semaines. Or, il est décisif. Il sait très bien jouer avec les stars barcelonaises. Il a pas pris la grosse tête. Donc franchement, il y a des retards à l'entraînement, mais sur le terrain, c'est absolument fantastique.
Hugo ?
Oui, simplement rappeler ses statistiques. Ousmane Dembélé, 8 buts en Liga, 13 buts toutes compétitions confondues, 5 passes décisives, le tout en 27 matchs. Donc c'est effectivement très très correct, parce que ça fait 18 fois décisives dans la saison en 27 matchs, c'est plus d'un match sur deux. Donc c'est très correct.
C'est un immense talent, Ousmane Dembélé. Tout le monde a l'air de considérer qu'il n'y a que Mbappé sur la planète foot au niveau des jeunes. Et Mbappé est tellement sidérant que personne n'est à sa hauteur. Dembélé a un talent mais fantastique. Le style public du Camp Nou l'a adopté, c'est parce qu'il se rend compte qu'il fait des décisions, il fait des choses absolument fantastiques. C'est un joueur étonnant. Et d'ailleurs, il s'étonne lui-même, d'ailleurs, je crois, parce que par moments, il fait des choses de pure inspiration. Alors du coup, son adaptation au Barça n'était pas aisée. Il n'est pas encore aujourd'hui complètement dans... Il n'est pas vraiment dans le moule, hein, on ne peut pas dire. Il est quand même à part, mais cet homme à part, il sera toujours à part. Quelle que soit l'équipe où il sera toujours à part. C'est un joueur très particulier.
Toujours à part dans sa tête ou
oui,
dans
à la
son
fois,
style.
Je pense dans sa tête, mais aussi dans... Mais ça, je le connais moins, mais son style est complètement à part. C'est incroyable. Il peut faire l'action la plus stupide du monde et la plus extraordinaire l'action d'après. Sans avoir douté aucunement entre les deux actions. Messi peut pas faire ça. Messi, il fait tout.
Toujours
bien. Il fait tout dans la perfection et puis de temps en temps il rate une chose et il se rend compte qu'il a raté. Dembélé se rend même pas compte qu'il a raté un truc incroyable l'action d'avant. Il ne le sait pas. L'action d'après, il refait une action fantastique. Sans avoir douté un instant sur l'action précédente.
Ce qui est intéressant
avec
ce joueur,
il est étonnant.
Et en même temps, justement, Valverde, alors même a essayé de le soutenir, de le prendre un peu sous son aile, même quand il avait ses retards marqués. Et puis même ses camarades, qui sont quand même tous des stars et tout, ont décidé aussi de l'aider, hein, Dominique, de le prendre un peu sous leur aile, parce que sans doute en décelant son talent, mais aussi peut-être tout simplement humainement.
Alors il n'y a pas très longtemps, ils l'ont laissé fêter un but tout seul quand même. Hein. Ils sont 10 à avoir ostensiblement tourné le dos pour célébrer le but avec lui. Donc ça fluctue quand même.
Ça va et ça vient.
Voilà,
c'est un peu là
tout va bien. Bon, il y a cette entorse de la cheville qui va l'éloigner pendant 2 semaines. Là en ce moment tout va bien. Moi je suis d'accord avec le constat de Philippe et de Gilles, mais j'ai encore du mal à me dire s'il est vraiment Barcelona compatible. Je sais pas encore si ça sera une réussite totale. On est vraiment dans la saison 1, parce que les dernières, elle a été gâchée par les blessures. Donc là, je sais pas encore si on peut dire que ça sera un joueur marquant du FC Barcelone. C'est un très grand joueur qui manque énormément de maturité. Moi, je le connais un petit peu dans la vie privée. Là, il a pris un majordome.
Oui, parce qu'il est évidemment...
Il a pris des préparateurs personnels.
Il fait des efforts.
Il sait qu'il faut qu'il améliore l'entraînement invisible. Donc, c'est-à-dire la récupération, la diététique, la façon dont on mange chez soi, dont on se repose, à quelle heure on se couche. Mais c'est un garçon qui a un peu son âge, c'est-à-dire qu'il est un peu jeune, il manque énormément de maturité, c'est pour ça que parfois il se réveille pas, il oublie le radeau de réveil, et tout ça. Donc il a besoin d'être cadré. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il a pas le niveau international. Je l'ai vu plusieurs fois jouer en équipe de France à la Coupe du Monde et après. Il n'a jamais, pour l'instant, franchi le cap international. Ça, c'est le niveau le plus haut. Donc pour l'instant, c'est un très grand joueur, mais à qui lui manque. Et on parle des jeunes, il y a Dybala, qui n'a pas encore franchi peut-être aussi le cap international. Il y a comme ça des très très bons joueurs. Alors certes, Mbappé est un phénomène, mais il y en a d'autres qui sont jeunes et qui arrivent à s'imposer. Lucas Hernandez, le Français qui joue en Espagne et qui joue en équipe de France, qui a 22 ans, s'est imposé en équipe de France.
Je suis pas d'accord avec Dominique sur le côté, il a pas atteint le plus haut niveau. Il a quand même remporté la plus haute des compétitions et il n'y est pas pour rien.
Mais il n'était pas titulaire dans le 11 Didier Deschamps.
Excusez-moi, il y en a même qui sont champions du monde sans avoir joué.
Si vous dites que la France est championne du monde grâce à Dembélé, vous êtes une blague.
Non, mais si vous me dites qu'elle est championne du monde et que Dembélé n'y est pour rien, là c'est une mauvaise blague.
c'est pas ça non plus, mais c'est vrai qu'on parlait, parce qu'on parlait de Mbappé qui le dépasse.
Ah oui, mais il y a Mbappé, puis il voilà. y en a quand même plein d'autres qui sont essentiels ou importants.
On est d'accord.
Et son insouciance est aussi sa qualité. C'est-à-dire que, effectivement, le fait qu'il se réveille pas, ça va de pair avec le fait que sur le terrain, il soit ingérable et donc irrattrapable par les adversaires. Donc, il faut le cadrer, je suis d'accord, mais pas lui mettre des bornes, sinon vous allez briser l'élan.
Je veux pas le corseter.
Le seul point, j'avais l'impression, avec son majordome. Mais le seul point.
C'est pas moi qui l'ai pris.
Le seul point, j'avais l'impression que vous lui aviez fourni un major, excusez-moi. Donc, je retire mes propos. Le seul point négatif pour moi, c'est quand même une certaine fragilité. Beaucoup de blessures. Voilà. Oui. Et beaucoup de blessures.
Ça, c'est l'hygiène de vie, voilà. Gilles. Oui, c'est l'entraînement invisible.
C'est l'entraînement invisible.
La cheville, pas vraiment, mais.
Je corrige juste, on peut pas laisser Dominique Dia, il a pas le niveau international.
Ah, bah oui, vous êtes d'accord.
Vous êtes beaucoup d'accord.
Mais la Ligue des Champions, c'est plus fort que la Coupe du Monde. En termes de niveau, je parle.
Et si vous parlez l'équipe de France, le maillot national, vous vous rendez pas compte ce que c'est que de porter le maillot national devant ses parents.
Vous parlez d'autre chose.
Le niveau, c'est tout. Le niveau, c'est le niveau mental, c'est le niveau sportif.
Ah, vous parlez du mental, d'accord.
Le sport, c'est du mental, Philippe. La palette à 2-12, faut se réveiller parce que le sport, c'est que du mental. Hein. C'est pas des.
Il vous cherche, hein.
La palette, elle était mentale aussi, arrêtez de dire ça. Quand il faisait, non mais arrêtez, là, franchement, je laisserai pas mon ami dénigré par monsieur. Non. Mon ami Doucet, dénigré par monsieur.
Non, mais le niveau, c'est pas que du sport.
Je n'entends même pas répondre. Hein. Mais
je réponds pour vous.
Le plus haut niveau.
Mais vous abaissez pas ça, Philippe.
La Ligue des Champions, c'est beaucoup plus fort que la Coupe du Monde, en termes de niveau. Après, là où Dominique a raison, si on parle du mental et autres, c'est vrai que la Coupe du Monde a une autre dimension mentale.
Mais la sélection, toujours, c'est les plus grandes émotions de Platini, de Giresse, de Cruyff, ça vient de la sélection.
Et Didier Deschamps,
mais je ne pense pas que si Dembélé avait joué dans l'équipe de France aurait empêché l'équipe de France d'être championne du monde.
Déjà, il a joué le premier match contre l'Australie, ça l'a presque empêché de gagner.
Oui. Bon, c'est pas totalement de sa faute, je pense.
Il était parmi dix
types à côté de la plaque.
Une dernière information au sujet du FC Barcelone, et elle nous a quelque peu surprise peut-être du côté des supporters et voire de ceux qui observent le mercato. Et Hugo, c'est l'arrivée de Kevin Prince Boateng, il faut bien le dire.
Né à Berlin, le demi-frère de Jérôme Boateng, mais qui lui est international ghanéen. C'est peut-être le test ultime pour Ousmane Dembélé, lui mettre dans les pattes Kevin Prince Boateng, qui n'est pas le joueur le plus professionnel de l'histoire. C'était un joueur très talentueux, je parle un peu au passé. Il a 31 ans, Kevin Prince Boateng, mais il a brillé il y a quelques années, quart de finaliste évidemment de la Coupe du Monde avec les Black Stars. Il avait été très bon en Afrique du Sud, il a apporté le maillot de Tottenham, du Borussia Dortmund, du Milan AC avec Zlatan, il est notamment champion d'Italie en 2011, Schalke 04, à un moment donné, le milieu des années 2000 où ça commence à mal tourner pour lui, hein, quelques problèmes de discipline, notamment avec la sélection ghanéenne lors du mondial brésilien en 2014, sa carrière a un peu chuté. Derrière, je suis en termes de niveau. Et il était à Sassuolo depuis le début de la saison. Il était à Las Palmas avant. Vous voyez, on a largement quitté le gratin européen. Sassuolo avec une équipe avec laquelle il avait inscrit 5 buts cette saison. Voilà, pour Kevin Prince Boateng,
en fait,
version 2019.
Il vient en doublure, il vient en renfort, pas de celle de Dembélé d'ailleurs. Hein.
De Suarez. Ce sont des variables d'ajustement. Souvent des réciprocités d'agents. Tiens, tu m'as fait venir ce joueur-là, je prends le tien là. C'est quand même pas un transfert prestigieux. C'est étonnant.
On parlait d'Olivier Giroud aussi, donc ça aurait été très étonnant aussi.
Très, 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 là, oula. Non, mais là, Boateng, c'est doublure de la doublure. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va révolutionner, c'est en cas de blessure ou au cas où.
C'est un joueur qui a des petites preuves de discipline, qui a une image de bad boy, ça colle pas.
Ils vont le normer, là.
Pour revenir à Dembélé, ils lui ont mis Malcolm dans les pattes en début de saison, ça n'a eu aucun effet. Hein. Je pense qu'il est capable de vincer la concurrence.
Eh bien, c'est la fin de cette émission.
C'est le Choupo-Moting du Barça, Boateng, un petit peu. C'est le joueur inattendu, qui est loin d'être un mauvais joueur, bien sûr, mais bon. Voilà.
C'est la très belle conclusion, Philippe.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous et à demain.